France Culture.
Je vois une nénette qui chante. J'ai bien dit une nénette.
Hubert Ballet.
Grande bringue.
2012.
Au long nez, au long nichon. Un peu maigrichonne et un peu grasse. Ça dépend de quel endroit. Elle s'appelle Barbara.
Ça a été une grande passion entre vous et Barbara.
Oui. Ça a été une très grande passion. Souvent, la plupart des couples, ils sont comme des cons à toujours être le collé l'un à l'autre. Et ils finissent par tellement par se lasser qu'ils s'aiment plus.
Comment est-ce que vous arrivez à chanter si bien l'amour ?
Parce que j'en ai rêvé, sans doute, parce que j'en ai vécu des amours très belles. On m'a quitté et j'ai quitté. Pour moi, rien n'est possible sans amour. Rien n'est possible. Peut-être parce que c'est difficile à vivre, parce que peut-être les hommes et les femmes ne sont pas prêts à vivre ensemble. Je n'en sais rien. Mais parce que c'est ce qui aura conduit toute ma vie.
Voilà combien de jours, voilà combien de nuits.
Barbara a longtemps eu l'image d'une femme solitaire, seule, ce qu'elle était,
Valérie Lou,
ce qu'elle vivait seule le plus clair de son temps, mais c'était aussi une très très grande amoureuse, ce qu'elle n'a d'ailleurs jamais caché. Elle a dit qu'elle aimait les hommes ils m'ont faite, dit-elle dans une interview. Barbara, je ne sais pas si elle a passé beaucoup de temps à ne pas être amoureuse, elle vivait des passions absolument flamboyantes, qui étaient, elle disait, j'ai pas le talent de vivre à deux, et chez elle, l'amour ne pouvait pas se conjuguer au rythme du quotidien et d'un quotidien tranquille. Hein. Il fallait que ce soit toujours plus que passionné, même passionnel. Et elle aimait les gens qui sortaient de l'ordinaire, ça, incontestablement. Je pense qu'Hubert Ballet sortait de l'ordinaire, par son métier, par sa posture et par sa personnalité. C'était une grosse personnalité, ça c'est sûr. Moi je l'ai vu, je sais pas déjà quel âge il avait, peut-être 70, 12, 13 ans. C'était quelqu'un qui en imposait. Voilà, ça c'est sûr. Je pense que ce sont deux séducteurs qui se sont croisés ce jour-là à l'écluse.
Barbara, dit, quand reviendras-tu ? Premier épisode. Hubert Ballet, un amour impossible. Un documentaire de Stéphane Bonnefoy et Anne Pérez.
Ce n'était pas la première fois qu'à l'écluse je voyais Barbara. Je l'y avais aperçue en 1954. Le jour où elle avait réussi le difficile examen de passage qu'était dans ce cabaret, l'audition du premier mercredi du mois. Une réussite à laquelle je me flattais d'avoir modérément contribué. J'étais venu en curieux à cette audition, et après le passage de Barbara, je n'avais pu m'empêcher de chuchoter à mon ami Dadé, l'un des quatre patrons du cabaret. « Prends-la, celle-là. Prends-la. »
Il dit l'avoir déjà aperçue en 54. Ben peut-être, mais c'est vraiment le coup de bol.
Sébastien Bost.
Lui, il a été nommé cette année-là à Abidjan. Et quand elle a été engagée à l'écluse en 54, elle a été engagée pour faire des remplacements. Elle chantait deux ou trois chansons en tout premier à 7 heures le soir. Et pas tous les soirs, puisqu'il fallait qu'un artiste fasse relâche. Donc peut-être, oui, mais alors il fallait vraiment qu'il soit pas à Abidjan et qu'il soit pile le soir où elle a chanté. Donc c'est possible, mais la probabilité est faible. En 57, oui. Parce qu'en 57, il faisait des retours très fréquents à Paris, et là, elle chantait tous les soirs.
Hubert Ballet, lui, donne trois dates de rencontre avec Barbara.
Jean-François Fontana.
La plus importante, de toute façon, c'est celle que tous les deux situent, fin 59, début 60. Alors, qui est Barbara à ce moment-là ? Ben, elle est devenue la vedette de l'écluse. Elle est même, si on reprend les mots de Moustaki, la diva de l'écluse, un cabaret de 70 places. Voilà. Elle est la vedette de l'écluse, mais elle ne l'est pas depuis longtemps, parce que, ben, comme elle chantera dans Ma plus belle histoire d'amour, elle fut longue la route. Pour elle, elle a quand même été particulièrement longue et particulièrement escarpée. Au retour de Belgique, après une première tentative pour être embauchée à l'écluse en 1951-52, elle a été recalée, parce que encore trop proche du chant lyrique, pas assez affirmée pour du chant de variété, elle a été recalée. Au printemps 54, elle finit par être embauchée à l'écluse pour un remplacement d'une quinzaine de jours. Bon. Puis elle finit quand même par se poser en 1956-57 chez Moineau, qui est un cabaret beaucoup moins chic que l'écluse, qui est rue Guénégaud. Et là, quand même, des gens commencent à l'entendre et à la remarquer. Au point que Pierre Yégel de Pathé Marconi lui propose d'enregistrer un disque, Pathé Marconi RTL, à ce moment-là. Et les patrons de l'écluse lui proposent de l'embaucher. Et là, Hubert Ballet, dans un autre de ses écrits, mais dont je ne sais pas ce qu'il faut penser, dit qu'à ce moment-là, il l'a entendu chanter et qu'il a dit à son ami André Schlesser, un des co-directeurs de l'écluse, « Ah ben, cette fille, elle est formidable et c'est elle qui devrait être la vedette de l'écluse. » Bon, ce qui est vrai, c'est que, 6 février 58, on présente Barbara comme la vedette de l'écluse. L'un comme l'autre sont d'accord pour dire qu'ils se sont rencontrés à l'écluse fin 59, début 60, et ça a été le coup de foudre, mais compliqué par 5000 km de distance physique entre les deux, puisque l'une chantait à Paris, l'autre vivait et travaillait à Abidjan.
De passage à Paris, je me rappelle à l'amical souvenir de Dadé, mon ami André Schlesser. Je suis resté longtemps sans lui faire signe. Aussi, lorsque sans crier gare, j'arrive à l'écluse, bien avant le spectacle, Dadé affecte de me gronder. Barbara n'est pas loin. Lorsque retentit l'accusation d'infidélité, elle dirige son regard de myope vers les deux hommes. Enfin, vers moi surtout. Ce qu'elle distingue de ma personne lui paraît encourageant. Et dans les secondes qui suivent, la voilà près de nous. Nos yeux ne se sont pas quittés.
Alors Hubert Ballet, au départ, donc il est né à la fin des années 20. Et après des études de droit, tout simplement, il est rentré comme fonctionnaire au ministère de l'Outre-mer. Et donc, au début des années 50, il a été nommé chef de projet pour essayer de créer une caisse de prestations sociales et familiales en Afrique occidentale et notamment en Côte d'Ivoire. Et donc, pour cela, en 54, il a été nommé en poste à Abidjan. Il est devenu ensuite un représentant officieux français sur place parce qu'il avait ce mérite et ce privilège d'être à la fois au contact des populations. Mais il fréquentait aussi les dirigeants, il avait des contacts avec Oufouette Boigny. Donc en fait, il voyait des gens très très différents. Et donc sur place, il pouvait donner à Paris le pouls de ce qui se passait sur place. Parce que en fait, on était en pleine période de décolonisation. Hubert Ballet a même participé à l'élaboration de la première constitution de Côte d'Ivoire au moment de l'indépendance à la fin de 1960. On était dans cette période-là.
La photo la plus ancienne de lui que j'ai vue, c'est en 1968. Où il fait un peu le coup de main dans la manifestation gaulliste de 1968, anti-mouvement 68. Quoi. Voilà. Il dit d'ailleurs, je crois que c'est dans Platine, il dit « J'ai été le premier, mais il a été le premier en tout, hein. J'ai été le premier écologiste, j'ai été le premier opposant à Cohn-Bendit, voilà. » Bon, c'est un personnage quand même très hâbleur. Lui dit, et on peut le croire, qu'il était très beau, ce qui était la première qualité pour plaire à Barbara. Ils avaient à peu près le même âge, il a 2 ans et 4 mois de plus que Barbara. Il est sans doute un peu auréolé de cette fonction de l'Afrique mystérieuse. Voilà, il vit à Abidjan. Il a un statut de diplomate, alors qu'il a été acquis un peu dans c'est la France-Afrique, de la décolonisation. Voilà.
Et puis un soir, je tombe amoureuse, folle et perdue, complètement décagnassée. Le cœur et la tête à l'envers, amoureuse enfin, d'un ami d'un gitan, alias André Schlesser, l'âme de l'écluse, un ami venu lui rendre visite après quelques années de silence. Comme rien n'est simple, cet homme-là habite à Abidjan, en Afrique. Poste important, homme important.
Moi j'habitais la Côte d'Ivoire, la Costa de Marfil, comme on dit. Ivory Coast, in English. Ça m'a donc éloigné de la grande bringue à la belle voix. Parce qu'un coup, je te vois, un coup, je te vois pas. Donc, un coup, c'est moi qui allais à Paris, un coup, c'était elle qui venait à Abidjan.
Bon, déjà, Abidjan, elle y est allée combien de fois? Au moins 2 fois, ça c'est sûr. C'est attesté par un article de journal d'Abidjan Matin en 1961 qui dit c'est la 2e fois que Barbara vient à Abidjan. Bon. Mais à ce moment-là, bon, c'est vrai qu'elle, elle aurait sans doute souhaité que lui vienne vivre à Paris. Lui aurait sans doute souhaité qu'elle vive à Abidjan. Il y avait beaucoup de choses qui faisaient qu'elle ne pouvait pas vivre à Abidjan. C'était pour elle une épreuve. Elle ne supportait pas la chaleur. Elle ne supportait pas le milieu dans lequel vivait Hubert Ballet. Et lui, il confirme, disant qu'elle exagérait un peu. Bon, c'était un milieu colonialo-mondain qui ne lui correspondait absolument pas. Lorsqu'elle dit, et c'est vrai, qu'elle quittait souvent la table avec les, où il y avait les invités d'Hubert, bon, et puis des femmes aussi qui rôdaient autour, voilà, etc., qu'elle avait un peu de mal à supporter, mais je pense que c'était surtout cette mentalité-là qu'elle ne supportait pas, de faux mondains, friqués, peut-être un peu racistes, sans doute colonialistes, etc., qu'elle se sentait bien avec les boys, avec le chauffeur de taxi qui l'emmenait ou la ramenait du refuge, et qu'elle se sentait bien quand elle partait avec Hubert dans la brousse. Et là où elle dormait sous la tente, etc.
Il y a des soirées insupportables, des aristocrates à la gomme, en robe de chez Dior. On se passe un 33 tours de Vivaldi à la vitesse d'un 45 tours sans même s'en apercevoir, et on s'extasie. Les femmes sont folles de hache, et toutes sont jolies. Derrière mes lunettes, mes yeux se plantent violemment dans ceux de H, qui perd un instant de son assurance devant les belles diorisées. Mépris pour ce monde poli mais pas joli joli. Je m'éclipse et disparais dans les cuisines.
Ça donne une femme d'assez mauvaise humeur, qui supporte pas le soleil ni la chaleur, ce qui est un petit peu embêtant à Abidjan, qui continue de se promener souvent en noir, et qui se sent mal à l'aise, ça elle le dit, très mal à l'aise dans la belle maison de ce quartier qui s'appelait Trècheville, qui s'appelle toujours Trècheville, parce que c'est une maison mondaine, visiblement. Voilà, et puis ça donne donc une femme qui va chanter dans un lieu, ça que j'aurais rêvé de voir, le cabaret de Joatia, le refuge à Abidjan.
Par rapport au refuge, il y a deux versions, mais qui peuvent se croiser, hein, qui peuvent être... Hubert Ballet dit que c'est lui qui connaissait Joatia depuis la Résistance, ce qui me paraît un peu bizarre, bon, compte tenu des âges, voilà. Mais son épouse, qui répond au doux nom de Carmen Cocu, c'est son vrai nom, elle tient un bistrot à Pigalle. Hubert Ballet dit que il demande à Joatia d'engager Barbara pour qu'elle puisse venir à Abidjan et qu'elle puisse chanter et donc y rester. Barbara dit que c'est elle qui va voir Carmen Cocu à Pigalle. Elle devient amie avec elle, et ensuite elle se retrouve d'ailleurs à Abidjan, et qu'elle demande à Carmen Cocu si elle peut lui négocier un engagement à Abidjan, parce qu'elle veut bien retourner voir Hubert Ballet à un truc, mais avec un engagement. Voilà. Bon, en tout cas, quelle que soit la voie, c'est vrai qu'elle se retrouve soit une fois, soit deux fois, et la deuxième fois plus longuement, chanter dans ce cabaret Le Refuge à Abidjan.
Abidjan, je chante au refuge, qui porte bien son nom, et où je verrai transiter des gangsters de tout calibre, des voyous sympas, petits délinquants ou grands truands. Il y a parfois des coups de grisou et des coups de gueule. Mon tour de chant s'intercale entre Faïza et sa danse berbère et Minouchette la stripteaseuse. Je m'entends très bien avec toutes ces belles jeunes femmes dont je prends la défense, les soirs d'orage.
Parce qu'apparemment c'était un cabaret assez luxe, sans doute beaucoup d'expatriés, fréquenté pas mal par des voyous, et puis le, je veux pas dire le tenancier, le patron Joatia, je voudrais vous retrouver l'expression exacte que j'ai lue, en fait la définition, enfin la façon dont il est défini sur son dossier d'archives aux Archives nationales. Joatia, deux points, ouvrez les guillemets, malfaiteur français et survivant des camps de concentration nazis. C'est extraordinaire. C'est un type qui était un gros gangster dès les années 30. Enfin, voilà, cambriolage, attaque à main armée, extorsion de fonds, escroquerie. Pendant la guerre, on ne sait pas trop s'il était proche de la Gestapo ou des résistants, possiblement des deux à la fois. Il finit par se faire arrêter. Il est déporté à Mauthausen. Il en revient. Tous ses camarades de déportation disent que c'était un formidable camarade, solidaire, etc. Après-guerre, visiblement, il a des contacts, plus que des contacts, il fricote un peu avec le contre-espionnage. Il fait quand même partie, encore en 1946, du gang des tractions avant, qui font un certain nombre de cambriolages dans des tractions avant. Il commet certains méfaits avec un personnage ô combien entré dans la légende qu'on appelle Pierrot le Fou. Et puis, il ouvre des cabarets, dont un à Abidjan, le refuge.
Premier jour, je suis assis à côté d'Atia dans la salle. Atia dit à toute la salle, écoutez-moi, fermez votre gueule, c'est moi qui parle. Et il sort de sa poche un 7,65, un revolver. Et il dit, il y a la belle qui va chanter, le premier qui ouvre sa gueule pendant qu'elle chante, je le bute. Et il repose le revolver. Et il dit « Musique !» Alors Barbara a la trouille, elle commence à chantonner. Elle a un succès géant. Pendant tout ce temps-là, Atia étant là, Barbara, quand elle venait à Abidjan, tous les soirs, elle allait chanter.
C'était l'Afrique, mais voyez-vous, ça aurait pu être le Pérou.
Il lui a apporté une aisance financière et matérielle qu'elle n'avait pas. Parce que l'Écluse, c'était très bien, mais on n'y était pas bien payé. Et les cabarets de la rive gauche, et encore l'Écluse, on disait qu'on y était mieux payé que dans d'autres cabarets de la rive gauche. Et donc, quand elle va à Abidjan, elle écrit par exemple à ses amis les Yégel, puisqu'elle est devenue amie avec toute la famille de Pierre Yégel, elle écrit « Je mène une vie de princesse », ce à quoi elle n'était pas habituée, quoi, parce que Rue Vitruve chez sa mère, c'était quand même pas une vie de princesse.
En 1961, après Bobino, peu de personnes sont prêtes à parier un copec sur un succès allant bien au-delà de celui qu'elle a obtenu à l'Écluse. Nous préférons parler d'avenir, du sien, du nôtre, avec toutes les interrogations liées à sa carrière incertaine, chaotique. Interrogation négative. Ne devrait-elle pas faire un choix entre sa vie amoureuse et sa vie de chanteuse, entre Paris et Abidjan? Je la pousse dans les deux directions. Il y a des moments où, la voulant exclusivement mienne, je jalouse ce public dont elle convoite les faveurs. Vois en lui mon seul vrai rival, celui à qui elle osera dire un jour « Ma plus belle histoire d'amour, c'est vous ». L'instant d'après, je me passionne pour la difficile ascension de l'artiste.
Oui, alors à écouter Hubert Ballet, elle aurait été prête à, en effet, mettre de côté sa vie de chanteuse. Pour lui, personne, mais vraiment personne, ne m'a jamais fait part d'un quelconque doute dans la volonté et la détermination de Barbara de chanter. Et d'ailleurs, nonobstant le respect que je dois à la mémoire d'Hubert Ballet, je constate qu'elle a fait des allers-retours brefs à Abidjan, que la fois où elle devait rester le plus longtemps, c'est-à-dire rester 3 mois, elle est restée 4 semaines, et qu'elle est rentrée pour chanter à Paris. Et ce qu'elle en dit aussi dans ses mémoires, elle dit qu'elle est tombée raide amoureuse de lui, mais elle dit aussi qu'il était insupportable, qu'il était jaloux, que quand le chauffeur, puisque monsieur avait un chauffeur, l'a ramenée du cabaret où elle chantait, d'abord elle n'est partie que parce qu'elle pouvait chanter aussi à Abidjan, donc elle ne renonce pas du tout à sa vie de chanteuse, et qu'il était tellement jaloux, il l'attendait en regardant la montre, qu'elle demandait au chauffeur qui l'a ramenée du cabaret à la maison de ralentir pour entrer le plus tard possible. Elle-même a dit, à plusieurs reprises, 64, une fois dans les années 80, une fois en 92, une allusion qu'elle fait au fait qu'elle n'a pas eu d'enfant. Et elle dit que c'est une souffrance, que c'est une douleur, qu'elle a envié les femmes enceintes. Moi, selon des choses que j'avais recoupées, on parle d'une grossesse extra-utérine qu'elle aurait eue en Belgique, donc dans les années 50, qui aurait été opérée. L'opération se serait mal passée. Après, elle aurait été dans l'incapacité physique d'avoir des enfants. En 1992, elle dit « Il y a une chose qui aurait pu me détourner, me faire arrêter de chanter, c'était d'avoir un enfant. J'en ai pas eu. » Voilà. Sincèrement, je pense que ça, peut-être. Les hommes, eh bien, le fait est que, il suffit de regarder sa vie, il n'y en a pas un qui a tenu très très longtemps face à ce désir de chanter. Enfin, ce désir... Et encore une fois, je pense que c'était plus qu'un désir, je pense que c'était une planche de survie. Donc Hubert Ballet, Claude Sluys, la relation d'avant Jean Poissonnier, les relations d'après Luc Simon, François Wertheimer, enfin en parlant. Parfois, elle a été très 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 amoureuse, Barbara. Elle a souvent été très amoureuse, toutes ses chansons d'amour. Elles ne sont pas toutes à Hubert Ballet, hein, loin s'en faut. Ben oui, ben voilà, elle a eu beaucoup d'amour, mais le seul qui ait duré, c'est son amour pour... sa vie de femme qui chante.
Hormis les moments où je me retrouve seule avec H, je ne me sens jamais à l'aise dans mon propre espace. Je suis comme égarée. L'amour-passion de lui m'a mis la tête et le cœur à l'envers. L'Écluse télégraphie, il faut que je rentre. Déchirée, je nous sépare encore une fois. Dans l'avion, une petite musique et 4 phrases. Je commence, dis, quand reviendras-tu ? Arrivé à Vitruve, je déchire et jette les pages de mon cahier d'écolière, comme chaque fois que je compose une chanson, sur mon vieux magnétophone. Dis quand reviendras-tu prend forme, puis se finalise.
Barbara ne fit à aucun moment sienne cette idée d'une expatriation en Côte d'Ivoire. Jamais à court de formules frappantes. Elle me dit un jour « Fais gaffe, Hubert, je n'ai pas la vertu des femmes de marin. La chance voulut que je les attrape au vol. Pour détourner une conversation en train de mal tourner, je lui dis que je tenais à noter tout de suite cette petite phrase, qu'elle pourrait être utile dans l'une de nos chansons. Elle me ramena, l'œil noir, à son ordre du jour. Dans la semaine qui suivit, nous reparlâmes de la petite phrase. Ainsi naquit le projet, dis, quand reviendras-tu ?
Mais moi je suis convaincue qu'il n'a absolument pas écrit « Dis quand reviendras-tu ». Et je vais vous dire pourquoi. Je suis convaincue pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que quand Barbara a eu des co-auteurs ou des co-compositeurs, elle le disait. Elle était vraiment dans cette école de pensée des interprètes. Hein, d'ailleurs, elle avait commencé par interprète, où on cite très scrupuleusement auteurs et compositeurs. Le deuxième élément qui me fait penser qu'elle l'a écrit absolument toute seule, et que ce n'est pas Hubert Ballet qui a touché au texte, c'est que j'ai lu les textes d'Hubert Ballet. Alors, si vous allez sur le répertoire de la SACEM, il y a 44 œuvres déposées au nom d'Hubert Ballet, dont la plupart sont des compositions. Donc, je vous jure que ce n'est pas du tout le style de « Dis quand reviendras-tu ». En revanche, dans « Dis quand reviendras-tu », on trouve en germe tout ce qui sera le style de Barbara, c'est-à-dire la sensualité. C'est la première femme à chanter des choses sensuelles. La sensualité et la façon dont le sentiment est ressenti par une femme, comme une femme. Et puis, ce refus de se laisser briser par l'amour et cette volonté de prendre la main. Et je n'ai pas la vertu des femmes de marin. Si tu ne reviens pas, eh bien voilà, j'irai voir ailleurs. Ce qui d'ailleurs s'est produit. Donc moi, je reconnais absolument pas la patte d'Hubert Ballet et je reconnais très très bien la patte de Barbara, un style qui ne fera que s'épanouir. Et puis, dernier détail qui n'est pas des moindres quand même. Moi, quand j'ai interviewé Hubert Ballet, il ne m'a jamais dit qu'il avait coécrit ou co-composé « Dis quand reviendras-tu ». C'est-à-dire comme si ce récit-là n'était pas encore au point. Je vois pas pourquoi il me l'aurait pas dit. Bon, on va dire que des fois, on peut avoir de mauvais souvenirs de bonne foi.
Oui, alors bon, c'est vrai que Hubert Ballet a eu tendance un petit peu à exagérer le rôle qu'il a joué dans la création, c'est-à-dire dans l'écriture même de la chanson. Parce qu'en fait, la chanson elle-même, elle a été écrite donc entre le retour de Barbara d'Abidjan et le voyage en Italie qu'elle a fait ensuite avec Hubert, donc à un moment où elle est seule à Paris et lui où il est seul à Abidjan. Alors bien sûr qu'il s'appelle tout le temps, qu'elle lui fait écouter, elle lui joue au piano, au téléphone, des choses. Ils sont partis d'une phrase qu'elle lui avait lancée, « Je n'ai pas la vertu des femmes de marin ». Ils ont discuté de la chanson. Il est tout à fait possible qu'il ait pu lui suggérer des mots. Je ne dirais pas qu'il a participé à l'écriture de la chanson, mais son rôle est quand même considérable dans la mesure où il a accompagné et stimulé la création de cette chanson. Et par sa simple présence, il peut être considéré comme vraiment associé à la création de cette chanson. Il n'a pas besoin de s'attribuer la paternité de tel ou tel vers ou de telle mélodie. Son rôle est déjà considérable.
Nous rentrons à Paris. Il veut me trouver un appartement avant de repartir pour Abidjan. H trouve un appartement à proximité du pont Mirabeau. Il m'installe à Rémusat, comme une danseuse. Je quitte Vitruve en douceur avec mon piano, mon magnéto, et l'unique valise avec laquelle j'ai vécu jusqu'ici et que je n'aurai plus désormais à refaire sans cesse. J'ai un appartement.
C'est lui qui lui a trouvé cet appartement. Avant la rue Rémusat, Barbara, elle avait longtemps habité l'appartement familial, un petit appartement sombre, rue Vitruve, dans le 20e, et puis après, elle était un peu dans des chambres d'hôtel. Et Rémusat, c'est drôle, elle disait pas l'appartement de la rue Rémusat, elle disait Rémusat, comme si c'était une petite ville à elle toute seule. Rémusat, c'est son premier havre, en quelque sorte, son premier appartement, rien qu'à elle. Qu'elle aménage vraiment rien qu'à elle, avec le piano, le grand piano, le rocking chair, le magnéto à bandes, où elle enregistre, où elle pend les bandes, elle les coupe, elle les pend, elle les scotche au mur. Ses affiches de danseuses des années 10, 20, 30, les affiches de la Loy Fuller, les affiches du Moulin Rouge, sa décoration, sa chambre. C'est important, c'est la première fois qu'elle se pose quelque part, elle qui s'est toujours vue, vécue comme une nomade. D'abord dans sa vie de chanteuse, c'était une nomade, et puis il faut jamais oublier que c'est une petite fille qui, par la force des choses et à cause des persécutions antisémites, avait été nomade aussi, pendant toute la guerre, et qui ne s'était jamais vraiment fixé quelque part. Donc cet appartement que lui trouve Hubert Ballet, C'est très important. Et puis, il y a sa mère qui viendra vivre dans le même immeuble, dont elle était proche jusqu'à la fin, qui décède en 1967, Esther. Et la chanson de deuil et d'hommage qu'elle fait à sa mère, elle l'intitule « Rémusat ». Donc c'est tout à fait important, la rue Rémusat, cet appartement où elle vit, où elle reçoit les journalistes, où elle compose, où elle écrit, où elle reçoit les musiciens.
Et toujours, les allées venues de H. Il revient, il repart. Il m'écoute fredonner et propose de revenir définitivement si je ne chante plus. Jaloux, possessif, terrible. Il va se battre contre un piano, contre des chansons, contre un public peu nombreux, mais qui constitue déjà ma raison de vivre. Non, non et non. Alors, séparation définitive. Déchirure.
En 61, lorsqu'elle décide de la rupture avec Hubert Ballet, elle a déjà une notoriété supplémentaire par rapport au moment où elle l'a rencontré, car elle a enregistré deux disques. Un pour Brassens, un sur Brel. Elle a un disque live de ses chansons à l'Écluse et elle a reçu le prix de l'Académie Charles Cros. Donc elle est déjà en notoriété, elle a monté en gamme. Donc il y a les deux choses en fait au moment de la rupture. C'est qu'effectivement, il faut qu'elle fasse un choix et il lui a demandé de s'installer définitivement avec lui à Abidjan. Ça, elle ne pouvait pas l'accepter. Elle était en pleine ascension et elle arrivait enfin à concrétiser après... disons 12 ou 13 ans de galère, elle arrivait à concrétiser son rêve et c'est le moment pile qu'il choisit pour lui dire « il faut que tu y mettes fin ». Ben ça, c'était pas possible. Mais il y a aussi autre chose, c'est que Barbara a toujours fonctionné sur le mode de la rupture franche avec tous les hommes qu'elle a aimés. Parce que quand vous écoutez Barbara, il y a toute une éthique amoureuse chez elle. « Je préfère m'en aller au plus beau ». La chanson « Parce que » qu'elle écrira en 68, c'est « Je préfère m'en aller ». Car il faut savoir se quitter avant que ne meure le temps d'aimer. Donc Barbara, avec les hommes qu'elle a aimés, elle a aussi toujours privilégié la rupture au moment où on s'aime le plus.
Dorénavant, je suis seule. Plus rien ne va pouvoir me détourner de ma route telle que je l'ai toujours pressentie. Rien, ni hélas personne, plus aucun homme, aucun amour. Bien sûr, des hommes et des amours. Mais c'est si différent. J'aurais bien voulu, mais je n'ai pas eu le talent de vivre à deux. Ni jamais le désir assez grand de tout quitter pour un seul homme. En acceptant de perdre H, je viens de prendre le voile, inexorablement, pour cette beauté, la vie de femme qui chante.
La dernière née, qu'est-ce que c'est ?
C'est une chanson qui n'a pas de titre encore. Et je crois que c'est une chanson d'amour.
Oui, vous voulez vous mettre au piano, la chanter pour nous
choix, oui.
Alors nous en avons, nous, la primeur.
Oui.
Merci.
Voilà combien de jours, voilà combien de nuits.
Hubert Ballet, Un amour impossible. Avec Valérie Lehoux, Jean-François Fontana et Sébastien Bost. Lecture des mémoires de Barbara, Il était un piano noir, Marjorie Delarquier. Et lecture des mémoires d'Hubert Ballet, Dis quand reviendras-tu, Richard Chevalier. Prise de son, Éric Boissé et Laurent Maquetti. Mixage, Jason Taous. Archivina, Ingrid Lecointe, documentaliste, Antoine Vuilloz et Anne-Lise Signoret. Chargée de programme, Sandrine Chaperon. Coordination, Emmanuel Laurentin. Un documentaire de Stéphane Bonnefoy, réalisé par Anne Pérez.